Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine comme tous les samedis après VibraSOS et bien un peu de science. À l'honneur sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël et je retrouve Carole. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël, comment vas-tu?
Mais très bien depuis la semaine dernière. Alors encore énormément de remontées de cette émission de la semaine dernière. Grâce à toi Carole, encore. tu fais exploser l'audimat de Graphite. Et je t'en remercie. Et puis qu'on aura bientôt la vidéo. Alors, je ne te raconte pas ce qui va se passer.
On verra. Peut-être des hordes de personnes devant le studio. Écoute, ce sera avec plaisir.
Et pourquoi pas?
Oui.
Et pourquoi pas? Vous nous écoutez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Que ce soit en direct ou en différé, je rappelle également que cette émission est rediffusée le mardi matin à 10h. Donc vous avez vraiment aucune excuse maintenant.
Pour ne pas écouter l'émission, en effet.
Et puis sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Oise, l'Aisne et la Somme, bien sûr. Biotine tous les samedis, c'est l'émission qui vous permet de faire un petit peu le point sur l'actualité scientifique. Il y a eu des choses qu'on a évoquées la semaine dernière, et notamment les prix Nobel. Et donc là, on va parler un petit peu de la parodie, c'est-à-dire les prix IG Nobel, Ig Nobel, Ig
les
Nobel.
Fameux.
Je ne sais pas comment on dit précisément, mais en tout cas, c'est...
Les Ig Nobel, non
les Ig Nobel. Tu veux appeler ça les Ig Nobel? Pourquoi pas?
Pourquoi
les Ig Nobel, tiens, ça va être tout nouveau, je n'en sais rien. Et on fera bien sûr un point sur l'actualité sérieuse. Peut-être même essayer de contredire certaines croyances, peut-être aussi. Ça peut être intéressant de remettre un petit peu les choses en place. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Alors, c'est bien que le 17 octobre, on se dise, on va faire en sorte d'éliminer la pauvreté. Puis alors, le 18 octobre, après,
c'est
on
bon.
Passe à autre chose.
On a hein. géré.
Et au niveau de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe également, ce qui peut être intéressant voilà, de pouvoir sensibiliser sur ce sujet-là. Au niveau de l'éphéméride, le 17 octobre 1817, naît Alfred le Grand des Cloiseaux. Il est un minéralogiste français. Il va créer la Société française de minéralogie et de cristallographie en 1878. On lui doit la description de nombreuses espèces minérales, la binite, la christianite, la montébrasite. Alors personnellement, je ne suis pas trop minéralogiste, c'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas. Et effectivement, dans cette émission, on en parle très peu. Il n'empêche que cet homme-là a une notoriété et une importance dans ce domaine-là. Peut-être aussi parce que ces sujets-là ne sont pas nécessairement déjà porteurs en termes de communication. Et peut-être aussi qu'il n'y a peut-être pas énormément de recherche dans ce domaine-là, parce qu'on a peut-être déjà recherché pas mal de choses en termes de minéralogie. On est plutôt dans l'aspect maintenant utilisation et appropriation de ces minéraux et de ces composés qui peuvent être utilisés en industrie peut-être. C'est pour ça que finalement la minéralogie n'est pas un domaine de prédilection dans cette émission, et c'était intéressant de profiter de la naissance de Alfred le Grand des Cloiseaux. En plus, il est picard, il est né à Beauvais. Alors, franchement, fallait le mettre en avant aujourd'hui, au 19e siècle. Décès le 17 octobre 1757, alors là, on va au 18e siècle carrément, du physicien et naturaliste français René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Donc le nom de Réaumur, pour certains parisiens, ça dit quelque chose.
Et vient de là, d'accord.
Parce que voilà, c'est bien sûr Réaumur. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'on le nomme. Non pas Ferchaud de Réaumur, mais on va prendre Réaumur directement. C'est comme ça qu'il est beaucoup plus connu. Il est né à La Rochelle. Il est donc physicien et naturaliste français. En plus de ses enquêtes approfondies sur les arts et métiers, Réaumur couvre toutes les facettes de la physique et de l'histoire naturelle de son temps. On est à une époque où il touchait à tout. Ça inclut ce que ça deviendra plus tard la géologie, la physique appliquée, la biologie. Et même plus précisément, l'éthologie. C'est pour ça que je pense à toi. La
merci.
Physiologie, la génétique, l'entomologie. Il a touché à tout, cet homme-là. Réaumur constitue un très riche cabinet de curiosité où il tente non seulement d'obtenir un exemplaire de chacune des espèces, mais surtout d'avoir des informations sur son habitat et ses mœurs. Et pour Réaumur, le cabinet n'est pas un lieu simplement voué à l'entassement des collections, mais doit être avant tout un outil scientifique à part entière. Et son cabinet est l'un des plus riches d'Europe à l'époque. Mort 17 octobre 1757 de René-Antoine de Réaumur. un nom voilà, qui est assez connu parce que voilà, il a une station de métro, donc fatalement, ça nous dit quelque chose. Mais en tout cas, voilà, un scientifique comme ceux du XVIIIe siècle, un petit peu des touche-à-tout. Et oui. À l'époque, ils ont découvert énormément de choses, bien évidemment. Et là, voilà, il a vraiment des domaines de prédilection assez, assez vastes, et c'est tant mieux. On va faire un point. Je trouvais cet article assez intéressant. On l'évoquait la semaine dernière, un petit peu toutes ces croyances ou tous ces... ces appréhensions qu'il peut y avoir, notamment au niveau de la 5G. Et Futurascience a fait un article où le titre est très simple. La 5G est-elle dangereuse pour la santé, pour l'environnement, pour vos données? On parle bien de la 5G, la cinquième génération de communication mobile. En fait, ça doit permettre un saut de performance en matière de débit, qui va être multiplié par 10, en termes de délai de transmission, qui va être divisé par 10, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer plus en un minimum de temps, et aussi de fiabilité de la communication. Bref, cette cinquième génération promet un vaste champ d'application et doit permettre de développer la numérisation de la société. On parle des voitures autonomes, on parle de la télémédecine, on parle de réseaux intelligents. Donc on parle quand même de choses assez, assez éloquentes. Mais, pardon, la technologie de la 5G suscite des craintes pour la santé, pour l'environnement. Et la Convention citoyenne pour le climat, qui a été mise en place il y a quelques mois, a ainsi demandé un moratoire sur le développement de la 5G. Et il y a peut-être maintenant un mois, des élus qui ont signé une tribune dans le journal du dimanche pour relancer ce moratoire jusqu'à l'été 2021. Mais la question, c'est est-ce que ces fameuses craintes, quelles sont-elles et sont-elles justifiées? Et donc, on essaye un petit peu d'en savoir un petit peu plus. Comme la 4G qu'on connaît actuellement, la 5G émet des ondes électromagnétiques dans les fréquences radio. Or, selon Sophie Pelletier, qui est présidente d'une association sur l'électrosensibilité en France, elle explique « On sait que ces ondes ont un impact sur notre cerveau et que des personnes manifestent des troubles d'électrosensibilité, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles, comme son nom l'indique, à ces ondes-là. » Et le délégué général d'Agir pour l'environnement, il s'appelle Stephen Kirchhoff, il estime pour sa part que la 5G, je cite, « va entraîner une explosion de l'exposition des riverains ». Donc on est là sur des propos assez alarmistes, disant qu'il peut y avoir un véritable impact sur les individus. Ce sont des allégations qui sont souvent relayées, mais nous dit-on dans cet article, ne sont pas avérées pour le moment. Selon un rapport publié le 1er septembre 2020, par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le Conseil général de l'économie, l'Inspection générale des affaires sociales, tout est général en fait, et l'Inspection générale des finances, il n'existe pas, je cite, selon le consensus des agences sanitaires nationales et internationales, il n'existe pas donc d'effet néfaste avéré à court terme concernant ces ondes électromagnétiques et aucun effet à long terme n'a non plus été constaté. Alors, le risque est-il plus grand qu'avec la 4G? Pas vraiment, dans la mesure où le déploiement de la 5G, elle se fera majoritairement en zone urbaine, c'est-à-dire qu'elle va se rajouter sur les antennes qui sont déjà existantes. En revanche, elle peut contribuer à une augmentation du nombre de points atypiques, c'est ce que note le rapport. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, étant donné sa portée un peu plus courte, il faudra peut-être établir plus d'antennes 5G dans certaines zones. Et donc, il y a des études supplémentaires qui doivent être menées sur certaines bandes de fréquences, mais celle-ci est a priori moins dangereuse puisqu'elle pénètre moins les tissus humains. Donc, on est encore dans une phase où on va poursuivre un petit peu les investigations pour comprendre un petit peu mieux et avoir un peu plus de résultats et d'avis sur cette situation-là. La consommation énergétique est susceptible d'augmenter de manière dramatique si la 5G est déployée de la même manière que la 4G. C'est ce qu'explique l'équipementier suédois des télécoms, Ericsson. Un équipement 5G consomme 3 fois plus qu'un équipement actuel 4G. Et ajouter des équipements 5G au site existant conduira à doubler la consommation du site. C'est ce que met en garde aussi le spécialiste des énergies qu'on évoque des fois dans cette émission, Jean-Marc Jancovici. Cela revient à environ une augmentation de 2% de la consommation d'électricité du pays. Les équipementiers promettent toutefois une 5G qui va être sobre en énergie, grâce notamment à la mise en place d'une certaine intelligence artificielle et puis aussi un petit peu à l'amélioration, l'optimisation des infrastructures matérielles qui existent. Par exemple, il y a des communiqués. Nokia promet ainsi 30% d'économie d'énergie sur ses stations 5G grâce à une technologie de refroidissement. Et de plus, les fameuses antennes qu'on va appeler des antennes intelligentes, elles ne vont pas fonctionner en permanence, mais elles vont s'activer uniquement lorsque on va l'utiliser. Donc, on n'est pas dans une production
en permanence, en continu.
On est dans une production au moment où on l'utilise. Enfin, supposer que la 5G entraîne un surcoût énergétique, eh bien, elle peut aussi réduire l'empreinte carbone de 15% dans les autres activités. C'est ce que fait savoir le PDG d'Ericsson France cette fois-ci. Il a été interviewé dans l'usine Nouvelle. Alors, le vrai problème, en fait, ça concerne les terminaux, parce que la 5G, elle va obliger les utilisateurs à renouveler leur téléphone portable plus vite qu'ils ne l'auraient fait normalement, ce qui va générer plus de déchets. Donc, on est dans une consommation...
Toujours la course au nouveau téléphone, enfin, ça ne s'arrête pas, oui. C'est bien toujours sûr. Une surconsommation coup, de tout ce qui est...
Et l'impact peut être là, en fait, oui. Plus précisément. Ça va pousser à la consommation, ça va donc accroître le bilan énergétique. Donc, on est sur une conséquence, en fait, par ricochet de tout ça. Alors, autre chose, est-ce que la 5G, et notamment les fournisseurs de 5G, sont-ils susceptibles de nous espionner ? Parce que ça, on voit bien que...
On a tout entendu de toute façon sur le sujet. Donc...
Et notamment avec Huawei, qui est évincé de nombreux pays, justement, sur le fait qu'on se dit qu'ils pourraient peut-être nous espionner. Alors, en France, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques a demandé que les opérateurs démantèlent leurs installations Huawei d'ici 5 ou 8 ans, ce qui revient de fait à bannir Huawei vu les coûts d'investissement. Donc le fournisseur chinois, il s'est dit quand même prêt à signer des accords avec la France, avec tous les pays partenaires, contre ce qu'on appelle les portes dérobées. Les équipements Huawei sont par ailleurs réputés pour leur qualité et leur fiabilité, ce qui en fait amène un autre risque possible qui va être cette fois la cybersécurité. Et ce qui est un autre domaine aussi, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la 5G, on parle de plein de sujets qu'on pose sur la table et c'est peut-être pas plus mal de profiter de ce qu'il y a là justement pour aborder certains sujets. La 5G favorise de nouveaux risques en termes de cybersécurité, notamment par la multiplication des points d'entrée et une infrastructure à la fois plus décentralisée, c'est ce qu'écrit cet expert Jean-Marc Jancovici. Par la rapidité de son débit, il y a de grandes quantités de données qui peuvent être exfiltrées d'une organisation en quelques secondes. Et en octobre dernier, l'Union européenne avait publié un rapport sur les risques de sécurité liés à la 5G, s'inquiétant notamment des nouveaux sous-marins impliqués dans la chaîne des équipements. Des sous-traitants. En fait, ce qu'on explique derrière, c'est que t'as bien sûr t'as Huawei au départ, t'as une ribambelle de sous-traitants. Donc t'as une ribambelle de personnes qui sont impliquées dans le processus.
Bien
donc
sûr.
Si tu es dans un contexte de notion de cybersécurité, tu impliques plein d'acteurs en fait, et le risque peut être là. Et donc du coup, on peut considérer qu'il y a des nouvelles failles qu'on identifie dans ce circuit-là. Et on nous explique que la 5G pourrait renforcer la sécurité du réseau à travers notamment un protocole plus strict d'authentification et une détection automatique des menaces. Et un autre avantage serait que, comme le signal il va se focaliser sur le terminal de l'utilisateur, on est bien dans l'idée que ça va se déclencher au moment où on l'utilise, et quelque part, ça va cibler, en fait, ça va pointer vers l'endroit où le terminal est utilisé. Il est donc moins susceptible d'être intercepté, contrairement à ce qui existe actuellement, où, quelque part, la 4G est en train de diffuser à 360 degrés partout, en fait. Que là, on va être sur du ciblage. Donc, c'est quand même plus facile d'intercepter quelque chose qui est en train de diffuser partout qu'intercepter quelque chose qui est bien ciblé à un endroit particulier. C'est en tout cas les raisons qui expliquent que finalement la 5G pourrait être plus fiable et plus sécurisée. Il est aussi possible de créer un réseau 5G privé, par exemple au sein d'une usine, ça pourrait être possible. D'autres risques sont pointés par les spécialistes. La perturbation des prévisions météorologiques, nous dit-on.
Ah bon ?
Et aussi l'augmentation de la fracture numérique. Et ça, c'est intéressant.
Oui, ça
parce
c'est,
que
oui.
Il y aura ceux qui l'auront et ceux qui ne l'auront pas. Mmh. Donc, il y a ceux qui vont pouvoir... alors, j'adore, je crois que c'est un politique écologique vert, je ne sais plus, peut-être un maire qui avait dit, de toute façon, la 5G, je cite ses propos, ça va te permettre de pouvoir suivre ton film porno dans un ascenseur. Je n'invente rien, c'est
d'accord.
Un politique français c'est qui a évoqué
citation.
Ça.
Okay.
C'est une citation, c'est, ça ne vient pas de moi. L'image qu'il a voulu dire, c'est que effectivement, il y en a qui vont utiliser la 5G à des fins de divertissement et donc qui auront accès à du matériel totalement nouveau qui va pouvoir du coup utiliser cette technologie-là, et ceux qui n'auront pas le fric pour le faire, en fait, tout simplement. Donc cette fracture numérique qui existe déjà, il ne faut pas se leurrer, on a bien vu récemment avec ce période de confinement ceux qui pouvaient être en télétravail et qui avaient les outils pour le faire, et puis ceux qui n'avaient pas.
Ce n'était pas le cas, bien sûr, et ça concernait quand même énormément de monde. Hein.
Bien sûr, ça concernait énormément de monde. Il y avait déjà ne serait-ce que les enfants qui faisaient comment dire, de l'école à distance.
Oui.
L'école à distance signifie que tu dois avoir les outils pour pouvoir le faire. Donc, c'est déjà une fracture numérique. Avec la 5G, tu augmentes cette fracture numérique et c'est un vrai risque. Donc, la conclusion de l'article, c'est que la 5G, elle n'est pas intrinsèquement pire que la 4G, ni pour la santé, ni pour l'environnement, et que c'est comme tout, tout dépend de l'usage qu'on va en faire. On est encore donc, sur des moratoires qui sont en cours, mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas d'informations qui expliquent, qui prouvent pardon, que la 5G est nuisible, et donc on continue les investigations pour s'en assurer. Mais voilà, je veux dire, il y a la question bien sûr de ces ondes,
qui se posait finalement déjà avant.
Et
en
qui
fait.
Se posait déjà
ça
avant.
Ça revient au bout du jour, mais au final...
Mais au final, on est dans une situation qui risque d'être un petit peu plus contrôlée, peut-être un petit peu moins néfaste. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est le monde qui avance, la technologie qui avance, pour le bien et pour le moins bien. Donc il y a un moment, il faut qu'on fasse un choix. Pour moi, de dire quel choix il faut faire, c'est un choix citoyen qu'on doit avoir. Mais il y a aussi une économie derrière qui va être appuyée sur cette 5G. Il y a un moment où les pays qui vont pouvoir s'y appuyer vont pouvoir se développer et d'autres qui vont refuser le déploiement de cette activité de cette 5G vont être pénalisés. Alors, c'est la dure vie, la dure loi de la vie et du monde. Enfin, je veux dire, on n'invente rien. Et donc, du coup, il y a un moment, qu'est-ce qu'on veut ? Donc
c'est
le moratoire,
oui.
Oui, le moratoire mis en place par ce, je me rappelle plus là, ce qui avait été mis en place par le président Macron, la convention citoyenne, voilà pour le climat,
oui.
Pardon, qui lance cette idée. C'était très bien, justement, ça permet au moins, on va essayer d'en savoir plus et après on tranchera. Maintenant, faut pas se leurrer, on va trancher en faveur de la 5G. Je vois pas économiquement comment on peut faire autrement.
Voilà, exactement. Et en plus, j'ai l'impression, parce que là, je regardais justement, de toute façon, le déploiement, il est déjà prévu. J'ai l'impression que les étapes sont déjà, j'allais dire, presque figées, même si c'est pas le cas de tout. Après, comment on le contrôlera, il y a sûrement des choses qui sont encore à définir, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, je trouve, que soulève cet article.
Il n'y
a pas de réponse. On n'a pas de réponse.
On n'a pas de réponse aujourd'hui. Et donc, du coup, on est face à des pays, même voisins, qui sont déjà en déploiement de la 5G. Donc, par rapport à ces pays, on est en retard en termes de déploiement.
Oui.
Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que nous avons raison ? L'avenir le dira. Aujourd'hui, on n'en sait rien.
Oui.
Mais ça va être comme tout. Il y aura une question derrière de santé et puis il y aura une question d'économie. Et ça a été le résumé de notre année 2020. Enfin, je veux dire, il y a un moment...
C'est ce que j'ai l'air, c'est la chanson de 2020.
C'est 2020. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on privilégie la santé... où on privilégie l'économie. On a très bien compris qu'on pouvait difficilement combiner les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on choisit ? Je ne sais pas. On n'est pas ici pour donner la réponse.
Oui, non.
C'est pas du tout notre but. Le but de cette émission, c'est de donner des informations et chacun tranche. Et l'avis de chacun est totalement légitime et juste. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais il faut qu'on se pose un moment la question. Et je trouve que cet article était intéressant parce que finalement, il met en avant le fait qu'il y a des craintes légitime, on peut se poser des questions sur le déploiement d'une telle technologie.
Bien sûr.
Et ça nous explique qu'au moins, il y a une prise de conscience au plus haut niveau de l'État avec la mise en place de ce moratoire. on verra les conclusions du marathon.
Affaire à suivre.
J'ai dit 2021, je ne sais plus si j'ai donné une date précise du rendu du... Non, ben je ne retrouve pas, ce n'est pas grave. Mais été 2021. Donc peut-être que d'ici la fin de cette saison de biotine, on aura peut-être le,
d'autres infos,
le rendu de ce moratoire. Mais voilà, c'est un vrai sujet qui est basé un petit peu sur aussi des croyances, des... et peut-être des craintes de certains, et notamment, toi, tu as un sujet qui est aussi un peu sur cet aspect-là.
C'est ça, c'est-à-dire que ce sujet-là, d'un coup, il a émergé dans le débat, j'ai eu l'impression du jour au lendemain, alors que ça devait quand même être quelque chose de discuté. La technologie, maintenant, elle existe, donc c'était, à mon avis, pas nouveau, mais d'un coup, ça a émergé dans le débat, sous forme beaucoup aussi de théories du complot, de, voilà, apparemment, la 5G, c'était extrêmement dangereux, enfin, tout ce qu'on a pu entendre, tu l'évoquais d'ailleurs dans ton article, et ces derniers temps, ces derniers mois... Qu'est-ce qu'on a pu entendre, et je rebondis par rapport à ce qu'on disait dans la dernière émission, qu'est-ce qu'on a pu entendre comme fake news qui alimente justement les théories les plus farfelues. Et je voulais revenir en fait justement sur une fake news qui a circulé, et donc on va un petit peu lui tordre le cou, hein, par rapport au thermomètre infrarouge. Donc je ne sais pas si tu en avais toi entendu parler, moi je l'avais vu passer à un moment.
Si, parce qu'il y avait cette notion de thermomètre revolver, je ne sais plus, il y avait
oui,
un terme.
Oui, en plus on le voit au niveau de l'image, là j'ai une jolie photo.
Je ne sais plus, et donc du coup ne serait-ce que ce terme-là n'est pas anodin non plus, tu vois.
On exactement.
On peut évidemment s'en servir pour dire attention, ce qu'on nous fait faire c'est nous tuer.
Non, mais ça peut aller jusque-là. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on a commencé à beaucoup en parler? Parce que c'est ce qui était notamment utilisé dans les aéroports pour prendre donc la température et vérifier, enfin en tout cas avoir une première indication si les personnes qui voyagent sont malades. Donc justement, là, j'ai une jolie photo que je te montre justement avec cette image un peu du revolver, puisque c'est un article qui a été relayé dans le numéro de Science et Vie du mois d'octobre. Et donc cette news au départ, elle est partie fin juin d'un post Facebook d'une pseudo-infirmière australienne
tout à fait.
Qui dénonce, donc voilà, quand on remonte le fil, c'est toujours intéressant, qui dénonçait les dangers pour le cerveau de cet appareil massivement utilisé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, donc aux portes des entreprises ou des transports. Alors, sa thèse, c'est que leur rayonnement infrarouge attaquerait la glande pinéale, une structure cérébrale sécrétant la mélatonine, hormone au rôle central dans nos cycles veille-sommeil. On connaît bien la mélatonine. Alors, un chercheur, hein, Paul-Antoine Libourel, du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, assure que c'est juste impossible. Non seulement cette glande est profondément enfouie dans le cerveau, hors de portée des ondes, mais ce dispositif de mesure est totalement passif. Alors, de fait, ces thermomètres infrarouges, comme les caméras infrarouges, qui existent aussi, n'émettent aucun rayonnement. Ils mesurent en réalité l'énergie émise par notre organisme et reposent sur le principe physique suivant. Tout corps dont la température est supérieure à 0 Kelvin, donc 0 Kelvin, pour rappel, ça correspond à moins 273,15 degrés. On a de la marge. Donc tout corps dont la température est supérieure à cette valeur-là, eh bien, il émet un rayonnement infrarouge dont l'énergie est proportionnelle à sa température et à son émissivité. Donc le thermomètre, il est ainsi équipé d'un capteur de lumière sensible dans l'infrarouge qui fournit une information électrique proportionnelle à la quantité d'énergie reçue. Ce signal est ensuite donc converti en valeur de température. Quant à la lumière rouge qui émane de certains modèles, puisque ce n'est pas le cas de tous, elle permet juste de bien orienter l'appareil vers le front. Bah oui, ça permet de viser à l'endroit où justement on veut un relevé et on veut une valeur de température. Donc, aucune inquiétude à avoir. Il n'y aura pas de dérèglement du sommeil ou même des choses encore plus graves qui vont être du coup générées par l'utilisation de ces thermomètres.
Oui, parce que j'ai dit une erreur. En t'écoutant, j'ai relevé cette erreur. J'ai parlé de thermomètre revolver, c'est pas non, c'était le thermomètre laser, c'est ça en fait.
Ah, okay.
Et donc du coup, et ce qui est faux, c'est pas un thermomètre laser, c'est-à-dire on n'en voit pas un laser.
Non, c'est ça.
Et donc du coup, l'idée, c'était de dire, bah oui, c'est là, on va viser cette fameuse glande pinéale grâce à ce laser. Non, non, ce n'est pas un thermomètre laser, c'est comme tu l'as dit, un thermomètre qui va plutôt attendre que la formation vienne à lui.
Exactement.
Donc on est vraiment sur quelque chose de passif, comme tu l'as dit. Mais voilà.
On ne s'intéresse pas, si on ne connaît pas le mécanisme, il y a plein de gens qui, en ayant juste lu quelque part cette information, vont ensuite relayer partout sur les réseaux la fake news. Voilà.
Mais en soi, c'est compréhensible, en fait. Parce que l'image que tu m'as donnée, montrée, qui est l'image de ce thermomètre, qui effectivement ressemble un peu à ces scanettes qu'on a des fois dans certains supermarchés.
Oui.
Donc quelque chose qu'on tient à la main et qu'on vise comme ça, donc un revolver. Donc c'est déjà, le geste déjà, il est assez parlant. On parlait de thermomètre laser. Donc laser, c'est pas anodin. Chirurgie laser, tout ça. Les gens font tout de suite l'association d'idées. Sauf que ça n'est pas ça. Mais si on te dit que c'est un thermomètre laser, du coup, tu penses à ça. Donc, on peut comprendre que des personnes sont, je veux dire, peuvent tomber dans le panneau, pour être trivial. C'est totalement normal. Je comprends parfaitement la difficulté. C'est un peu ce qu'on évoquait dans l'émission de la semaine dernière. C'est un manque de culture scientifique, en fait.
Tout à fait.
C'est dommage que, du coup, ce genre d'information, elle arrive à être véhiculée très facilement. Mais alors, une information qui va t'expliquer comment fonctionne ce thermomètre à infrarouge va avoir beaucoup plus de difficultés à être diffusée. C'est dommage, c'est la vie, c'est comme ça, malheureusement.
On est maintenant à l'époque, justement, des fake news et il faut vraiment vérifier ce qu'on lit, ce qu'on nous dit et pas prendre tout pour la vérité. C'est sûr qu'il faut, il faut vraiment s'informer.
Il faut s'informer et le fait d'avoir une quelconque infirmière australienne, je n'ai rien contre les infirmières australiennes.
C'est une pseudo
liens,
en plus, donc même pas une vraie peut-être.
C'est rien que ça devrait déjà interpeller. En fait, c'est pas une infirmière. Je n'ai rien contre les infirmières, mais n'importe qui peut dire n'importe quoi dans ces cas-là. Et le prendre après, chacun va le prendre pour argent comptant.
Exactement.
Donc,
oui.
Voilà. C'est un peu ce que j'évoquais la semaine dernière avec ces vaccins qui vont avoir un réactif qui va se réveiller grâce à la 5G. On va allumer toutes les antennes 5G et puis d'un seul coup, voilà.
On sera
tous contrôlés parce que c'est lié aussi à une certaine culture cinématographique de science-fiction. Enfin, il y a tout un environnement.
Tout l'imaginaire est sollicité, bien évidemment, dans ce cas-là.
Et c'est très efficace. Justement, c'est hyper efficace. C'est imagé, tout le monde comprend. On comprend mieux un thermomètre laser qu'un thermomètre passif qui va attendre que les rayonnements infrarouges arrivent jusqu'à lui. Thermomètre laser, c'est hop, on voit tout de suite. On sait, on a compris. Sauf que c'est pas ça. Voilà, le problème, il est là. Et on passe...
On passe à côté de la vraie information.
On passe à côté de la vraie information parce que... Il y a aussi peut-être quelque part une simplicité à transmettre certaines données. Des fois, la vérité est beaucoup plus difficile à expliquer qu'une fake news.
Tout à fait.
Fake news, quand elle est efficace, c'est qu'elle est facilement compréhensible et que dans l'imaginaire, elle est crédible. Donc là, c'est totalement crédible.
Mmh. Ben, j'espère qu'en tout cas, on aura réussi à expliquer correctement celle-ci.
Écoute, dans la partie un petit peu science parodique, il y a ce qui me permet de lui faire un petit salut, ce qu'il nous écoute grâce au podcast sur le site graphite.net, CPJ, qui nous a accompagnés plusieurs années dans cette émission Biotine. Donc je salue s'il nous
salue.
Écoute. Je pense notamment à lui parce qu'il adorait évoquer au mois d'octobre les fameux IG Nobel ou les Ig Nobel, ce que tu évoquais tout à l'heure. Et finalement, je trouve que c'est pas mal. Et les IG Nobel, pardon, qui honorent chaque année les études scientifiques, je cite, « qui font rire les gens, puis qui les font réfléchir ». On a tendance souvent à oublier la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur le côté un peu...
farfelu, un peu original.
Original, mais il est très souvent rêvé dans cette émission qu'on évoque des articles scientifiques avec des découvertes vraiment intéressantes qui, au départ, avaient été récompensées par un IG Nobel. Je pense toujours à cet article qui expliquait qu'ils avaient reçu ce prix IG Nobel parce qu'ils avaient réussi une technologie à décuire les œufs, un truc comme ça, en fait. Il y avait quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Et en fait, donc sur l'instant, ça faisait beaucoup rire. Dire, alors les gens n'ont que ça à faire, les scientifiques. Ils font cuire des œufs et après, ils essayent de les décuire. Mais je crois que c'était peut-être un an après ou deux ans après, on était revenu sur cette information parce que du coup, la technologie, la découverte de ce qu'ils avaient fait avait eu une application. Alors comme ça, je ne me rappelle plus du tout, j'en suis désolé. Mais il y a une application hyper sérieuse, essentielle Et au départ, c'était parti sur quelque chose d'assez un peu farfelu. Donc les IG Nobel, c'est un peu cette idée-là. C'est quelque chose qui, au départ, fait rire, fait sourire, mais qui, après, il ne faut jamais oublier que derrière, il y a des choses qui sont très sérieuses et qui peuvent déboucher sur des thérapies, par exemple, ou des technologies qui vont améliorer notre quotidien. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Les IG Nobel se sont déroulés le 18 septembre, donc il y a un mois, et évidemment par téléconférence en raison de la situation sanitaire actuelle. Les travaux scientifiques les plus loufoques ont donc été remis à l'occasion de cette 30e cérémonie. Mon Dieu, déjà 30 ans. Et donc, c'est une cérémonie qui, pour que ça soit visuellement assez marquant, au départ, il y a une pluie d'avions en papier qui est lancée, en fait, pour lancer la cérémonie. Tu vois, les avions en papier. C'est génial, je trouve, au moins, c'est intéressant. Alors, les récipiendaires qui sont annoncés comme de véritables lauréats du prix Nobel, c'est quelque chose de très sérieux, tu sais, sur sa forme, ce qui est très drôle, se sont vus récompensés quand même par un billet de 10 000 dollars, finalement.
Ah, donc au final...
Mais 10 000 dollars zimbabwéens, ah oui, évidemment, hein, parce que cette monnaie n'a plus cours depuis 2009. Elle était victime de l'hyperinflation. Donc ils n'ont rien. Ils ont toute notre
estime. C'est symbolique, voilà.
C'est toute notre symbolique. Donc, il y a toute une liste d'IG Nobel. On va en lister quelques-uns et après, on écoutera un petit titre. Par exemple, l'IG Nobel d'acoustique. Alors, les vocalisations des crocodiles sont-elles un moyen de mesurer la taille de leur corps ?
Eh bien, c'est pour avoir, question,
eh bien, c'est pour avoir répondu à cette question assez épineuse que le zoologiste Stéphane Reber et ses quatre acolytes ont été récompensés donc par cet IG Nobel d'acoustique. Leur expérience a consisté à introduire un alligator de Chine dans une pièce étanche remplie d'un air enrichi en hélium pour voir si la fréquence de ses vocalisations en était affectée. Et ils ont pu confirmer ainsi leur hypothèse de départ. C'est-à-dire que les vocalisations des crocodiles sont un moyen de pouvoir mesurer la taille de ces crocodiles.
D'accord.
Et à partir de là, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'en fais ? On le saura plus tard.
Ben, c'est-à-dire que quand du coup on est spécialiste après des vocalisations des crocodiles et qu'on se balade, j'allais dire dans la jungle, en tout cas pas loin de leur milieu naturel, ça peut nous aider à savoir si on n'est pas loin d'un gros crocodile, donc peut-être plus dangereux. Je ne sais pas.
S'il est dans une pièce étanche remplie d'hélium, attention, c'est pas dans la nature.
Ah oui, parce que du coup, on s'en rend pas compte. Il faut qu'il... Ouais,
non, en fait, derrière, on est bien sur un IG Nobel d'acoustique. Donc, on est bien sur une notion d'acoustique plus que d'animal, en fait.
Oui,
derrière.
Oui, oui.
Donc, derrière, il y aura sûrement des avancées d'un point de vue acoustique, c'est-à-dire peut-être avoir une notion d'acoustique différente par rapport à la grosseur de l'émetteur ou la configuration de l'émetteur. Il y a peut-être des choses derrière.
Et parce que puisque eux, ils communiquent entre eux, donc notamment grâce à ces bruits qu'ils émettent, est-ce que du coup, entre autres dans leur vocalisation, il n'y a pas des indications aussi sur leur taille, sur ce que... On sait que pour les oiseaux, il y a beaucoup d'indications dans le chant des oiseaux. Est-ce qu'au final, alors, le chant des crocodiles, je ne connais pas bien, mais, mais, non, mais justement, il y a peut-être en fait plus d'indications que ce qu'on pense.
Tu peux peut-être dire, ah, attention, le crocodile que je ne vois pas, mais que j'écoute là-bas, est très gros par rapport
voilà,
à moi.
Oui, voilà, c'est ça. Peut-être. Et donc, attention, même si je suis un autre crocodile, je ne sais pas, ou ça pourrait être intéressant de le rencontrer.
Écoute.
En fait, voilà, ça décuple l'imagination à chaque fois, je
Mais
trouve, leur recherche.
C'est ça qui est intéressant. Par exemple, l'IG Nobel de médecine, ce sont trois chercheurs belges et néerlandais qui l'ont reçu pour avoir diagnostiqué une maladie longtemps méconnue, qui est la misophonie.
Qu'est-ce que c'est ?
La misophonie. Phonie. Encore acoustique.
On est sur le son encore, très bien.
La détresse d'entendre d'autres personnes faire des bruits de mastication. Il y en a, ça rend fou.
Oui, c'est vrai. Le matin, surtout, je trouve, avec les céréales.
Excuse-moi.
Non, mais il paraît que c'est quelque chose de très agaçant.
C'est du vécu, Carole.
Oui, non, mais je sais que c'est quelque chose qu'on voit même dans les séries, dans les films. C'est quelque chose de très mis en scène.
Messieurs, ne mangez pas vos céréales le matin en présence de Carole. C'est un
conseil.
C'est un conseil que je vous dis. Ça s'appelle la misophonie. Cette étude repose notamment sur 42 cas de personnes qui montrent une agressivité extrême envers des personnes qui claquent des lèvres ou qui respirent bruyamment. En fait, c'est une vraie maladie, ça. Des personnes qui ne supportent pas des petits bruits anodins du quotidien, voilà, qui, on parle de mastication, on parle de respirer bruyamment ou autre. Il y en a qui ils sont totalement... Ça agit sur eux, toujours aussi une notion acoustique, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir détecter ce genre de bruit que le commun des mortels ne va pas détecter. Et donc, ils ont reçu un IG Nobel de médecine. Et effectivement, derrière, ça va être essayer de trouver des thérapies, de comprendre.
Oui, est-ce qu'on peut soigner ces gens parce que...
Voilà, on comprend comment on devient misophone, je suppose que c'est ça, et comment on peut être soigné. Miso, M-I-S-O, on n'est pas dans la misogynie.
On est dans la soupe miso. Au niveau...
On est dans la soupe miso. Encore fin, c'est pas possible. Allez, on écoute peut-être un titre. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct, en différé, en podcast, où que vous voulez, où que vous soyez. Et on va écouter Hubert Félix Thiéphaine, dis donc.
Avec plaisir.
Mais écoute, il y a très longtemps, il est sur l'antenne de Graphite. Allez, à tout de suite.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Hubert Félix Thiéphaine. Fait plaisir de l'écouter. Tellement d'années, je trouve, qu'on ne l'a pas entendu.
Ça te rajeunit, en fait, c'est ça?
Exactement, parce que Hubert-Félix Thiéfaine, on l'associe très souvent au Printemps de Bourges, en fait. C'est là où il a eu quand même des grands concerts. C'était la Ruelle des Morts de Thiéfaine. On va continuer à parler des IG Nobel tout à l'heure. On parlait de l'éphéméride, j'aurais dû reprendre la feuille, oui. Je l'ai rangée, d'Alfred le Grand des Cloiseaux, qui était donc né à Beauvais un 17 octobre 1817, qui a notamment créé la Société française de minéralogie. Ce n'est pas nécessairement de la minéralogie que tu vas évoquer, quoique, il y a
un petit lien, puisqu'on va parler d'ambre et d'un sujet pareil qu'on évoque quand même régulièrement. Là, c'est celui d'insectes piégés dans l'ambre pour justement tenter d'extraire leur ADN. On en a parlé souvent avec des fossiles qu'on retrouve dans l'ambre. Enfin, ça fait écho à un film célèbre.
Ouais, avec des dinosaures.
Mais on va un petit peu parler là justement des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un article qui a été relayé par Science Post, donc début octobre. Des chercheurs, ils ont réussi à extraire de l'ADN d'insectes piégés dans des échantillons de résine. Et évidemment, l'objectif, ce serait de pouvoir mettre en œuvre cette technique pour extraire des échantillons plus anciens. Alors, c'est une idée, en effet, qui n'est pas récente. Hein. Ça nous ramène à Jurassic Park, qui date, je le rappelle, de 1993, de Spielberg.
Il y a 27 ans ?
Déjà, oui.
D'accord, ok.
Donc, je ne sais pas si ça nous rajeunit comme Thiéfaine, mais on fait un petit voyage, là, c'est un petit retour vers le passé. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, le film, il nous a tous marqués. Ressusciter des dinosaures, on le sait, c'est scientifiquement impossible. Et en fait, pour cause, l'ADN, on l'apprend, hein, n'a une demi-vie que de 521 ans. Alors, je rappelle ce qu'est une demi-vie, c'est-à-dire qu'en fait, en 521 ans, il y a 50% de l'ADN qui se retrouve détruit. Il n'en reste donc que la moitié. Ce qui fait que si on continue le calcul, en 1042 ans, il y a 75% de l'ADN qui est détruit, et ainsi de suite. Donc au final, même si on a en main un morceau d'ADN parfaitement conservé, eh bien celui-ci serait complètement détruit, alors apparemment en 6,8 millions d'années. Parce qu'après, forcément, sur la fin, ça met plus de temps pour arriver vraiment à zéro.
Mais quelque part, tu vas à l'infini, en fait. Parce que tu prends toujours la moitié de quelque chose.
C'est
donc il te reste toujours une moitié, mais effectivement, tu n'en as pas assez.
Mais est-ce qu'on en aurait... Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on en aurait assez? Donc c'est ce que nous explique le généticien Darren Griffin de l'Université de Kent au Royaume-Uni. Et notamment, il expliquait ça en fait à la sortie de Jurassic World. Parce que oui, après les Jurassic Park, il y a eu les Jurassic World, pour ceux qui ont suivi. Il disait l'ADN de mammouth néandertalien et laineux a été isolé avec succès, mais l'ADN de dinosaure est tout simplement trop vieux. Hein. L'ADN le plus ancien jamais trouvé date d'environ 1 million d'années. Moi, ça me paraît déjà assez extraordinaire. Mais pour celui de dinosaure, nous devrions remonter au moins à 66 millions d'années. Donc, de façon réaliste, nous en sommes très loin. En effet, c'est vrai que il faut remettre ça à l'échelle des temps géologiques et c'est toujours des durées qui sont difficiles à se représenter. Alors, deuxièmement, même si nous pouvions extraire l'ADN d'un dinosaure, il serait coupé en millions de minuscules morceaux. De plus, nous n'aurions aucune idée de la façon dont ces morceaux devraient être organisés. Ce serait comme essayer de faire le puzzle le plus dur du monde sans aucune idée de ce à quoi ressemble l'image ou auquel il manque des pièces. Donc c'est vrai que ça paraît assez compliqué et assez, pour l'instant, malheureusement, irréaliste. Et puis peut-être, ce ne sera jamais le cas, justement. On ne pourra jamais faire quelque chose de l'ADN de dinosaure. Il faudrait en retrouver. Ceci dit, donc, des chercheurs de l'Université de Bonn et de l'Institut de recherche de Seckenberg ont néanmoins réussi à faire un grand pas en avant dans ce domaine. Justement, on va revenir aux fameux insectes. En fait, ils viennent d'annoncer dans la revue Plus One avoir extrait le matériel génétique d'insectes piégés dans de la résine il y a 2 et 6 ans. Donc je sais, là, chute de l'histoire. On se dit quoi, 2 et 6 ans? Mais voilà, ça paraît pas vieux. Mais en fait, c'est une première pour ce type d'échantillon. Alors là, vous allez me dire, mais si, mais il y a eu plein de choses, on a évoqué plein de recherches. Alors oui, l'étude d'ailleurs le souligne, de nombreuses allégations attestant la récupération d'ADN de divers organismes, bactéries, plantes, insectes et mammifères, y compris les humains, remontant à plusieurs milliers d'années, ont déjà été faites. Cependant, bon nombre d'entre elles, en particulier celles décrites à partir de l'ambre, donc la résine fossile, ont été critiquées comme étant le résultat d'une contamination environnementale moderne et d'un manque de reproductibilité. Ici, là, dans notre cas, les chercheurs se sont appuyés sur des techniques génomiques modernes à partir desquelles de l'ADN peut être obtenu en toute confiance. Donc, le docteur Monica Solorzano-Kremer, principal auteur des travaux, nous dit « Nous n'avons pas l'intention d'élever des dinosaures. Nous avons simplement cherché à déterminer si de l'ADN d'insectes enfermés dans des matériaux résineux pouvait être conservé. En utilisant une méthode de réaction en chaîne par polymérase, donc la PCR, on en parle régulièrement aussi, nous avons pu documenter que c'est effectivement possible dans les échantillons de 6 et 2 ans. Pour l'instant, ils sont remontés qu'à cette période-là. » À ce jour, on ne sait en revanche toujours pas quelle est la durée de conservation maximale de l'ADN piégé dans la résine. Le meilleur moyen de le déterminer sera de continuer à mener ce type d'expérience sur des échantillons de plus en plus vieux. Donc je pense qu'on aura l'occasion également d'en reparler. Mais c'est là où on voit que oui, la science-fiction dépasse largement ce qu'on est capable de faire dans le domaine pour l'instant.
Alors, soyons apprentis sorciers. Et je reviens sur ton puzzle d'ADN de dinosaures. Mmh. Je ne connais pas assez les dinosaures. On les considère, je ne sais pas, comme des volatiles ou c'est une espèce à part entière. Je pose cette question en me disant qu'on pourrait peut-être se calquer sur un ADN d'une espèce que l'on connaît pour avoir une base pour pouvoir reconstituer ton puzzle. Tu vois ce que je veux dire ? J'adore cette question. Mais je ne sais pas du tout si on considère...
Déjà, les dinosaures... les dinosaures, c'est surtout qu'il y a pas mal de catégories. Donc, je pense que déjà, leur classification, elle est quand même assez complexe. Et moi, de ce que je comprends, je pense que ça doit être très, très loin quand même d'ADN... qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Bonne question.
Je ne sais pas, c'est par rapport à ton idée de puzzle qui est très juste. C'est que si tu as plein de morceaux, comment tu reconstitues ton ADN ? Et du coup, tu as peut-être des modèles.
Mais je ne
sais pas quels sont les modèles aujourd'hui qui peuvent nous servir. Est-ce que c'est le modèle des reptiliens ? Sûrement. Je ne sais pas. C'est une question que je pose
question. Si quelqu'un veut nous répondre... le message.
Eh bien, écrivez-nous.
Écrivez-nous, oui.
Sur le site graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, sur la page Facebook également. Et sur. Alors, vous ne pouvez pas nous écrire sur la bande FM, mais en tout cas, vous pouvez nous écouter sur le 94.9 sur la bande FM. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Jean-Noël et Carole avec vous pour feuilleter un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Et puis parfois, on se fait un peu plaisir, comme tous les ans, en parlant des fameux IG Nobel. Donc, on continue la liste parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes, notamment l'IG Nobel de physique. Et c'est une expérience curieuse qui a pour terme les animaux, qui a consisté à étudier l'effet de vibrations à haute fréquence sur la forme des vers de terre. Et ça, c'est l'IG Nobel de physique. L'avantage de cette étude étant que les vers de terre sont bon marché et ils n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale pour servir de cobayes. Il y a deux chercheurs ukrainiens qui se sont ainsi vus récompensés de cet IG Nobel de physique pour leurs travaux de la plus haute importance, bien sûr. On en saura peut-être un petit peu plus dans quelques années. Ensuite, l'IG Nobel de psychologie. Alors ça serait quelque chose à essayer de creuser un peu parce que finalement, on a très peu d'informations. Miranda Jacobin et Nicolas Rus ont donc eu l'IG Nobel de psychologie pour leur méthode permettant d'identifier les narcissiques uniquement en examinant leurs sourcils. Malheureusement, on ne sait pas, en fait, quels sourcils il faut avoir pour être considéré comme un narcissique. C'est dommage parce que
c'est intéressant.
Ça serait une compétence sociale certainement très utile dans la vie de tous les jours, nous dit-on, et qui serait apparemment plutôt fiable. Et en plus, comme on est dans une époque où finalement les sourcils prennent énormément d'importance parce que ça reste l'un des derniers moyens de communiquer avec autrui
à cause des masques, oui.
Savoir identifier grâce aux sourcils que la personne en face est narcissique, ça serait quand même... Voilà, c'est en tout cas l'IG Nobel de psychologie. L'IG Nobel d'entomologie. L'entomologie, on le rappelle, c'est l'étude des insectes. C'est le chercheur américain Richard Werther qui a reçu cet IG Nobel pour avoir recueilli des preuves que de nombreux entomologistes ont peur des araignées. Alors attention, les araignées ne sont pas des insectes. Mais ils ont peur des araignées. Je trouve ça intéressant.
Ça paraît
ils étudient
assez
les
dingue,
insectes.
Oui, ils ont peur
et
des
on a
araignées.
Fait une étude et ils ont peur des araignées. Voilà, c'est assez intéressant. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est intéressant de le savoir. En fait, c'est un petit peu la rubrique qu'il y a eu très souvent dans cette émission, il faudrait que j'en mette un peu au goût du jour, qui était savoir étaler sa science. Et on est toujours, toi, dans un repas avec des amis, tout ça, et à un moment, tu as envie de briller. Eh bien là, tu peux dire concrètement, mais écoutez, chers amis, il y a des études scientifiques qui prouvent que ceux qui étudient les insectes ont peur des araignées. Et à partir de là, ils auront, je trouve qu'on peut briller en société grâce à cette émission. L'IG Nobel de sciences des matériaux a distingué le travail d'une équipe d'anthropologues et d'archéologues américains. Ils ont voulu vérifier la légende de cet Inuit qui est supposé avoir démembré un chien avec un couteau qui était fabriqué à partir de ses propres excréments qu'il avait gelés et sculptés à l'aide de sa salive.
Il en a fait un couteau.
Et il en a démembré, il a donc démembré un chien. Le verdict de cette étude, c'est pas la peine d'essayer. Ça ne marche pas.
Dommage qu'il ne l'ait pas su avant, du coup.
Malgré, nous dit-on, les nombreuses tentatives de la part des scientifiques. Cet Inuit, ce qu'il dit, c'est faux. On ne peut pas démembrer un chien avec un couteau que tu as fait avec tes excréments gelés.
Quelles ont été les expériences ? Enfin, je ne veux même pas savoir. Je veux dire, là,
Ah ben là, on est sur de la simulation. J'ose espérer qu'on
n'a pas maltraité des... Enfin, maltraité, c'est même plus que maltraité, des chiens.
Voilà. Mais on est bien dans la science des matériaux. C'est-à-dire qu'on a voulu étudier. C'est quand même la résistance de ces excréments. Bref.
Pour donc savoir si peut-être potentiellement en mode survie, on pourrait se fabriquer des outils avec. C'est peut-être ça le but derrière. Oui.
Il y a eu 7 chefs d'État qui ont été spécialement récompensés cette année par un IG Nobel d'éducation médicale pour avoir utilisé la pandémie virale de Covid-19 afin d'enseigner au monde que les politiciens peuvent avoir un effet plus immédiat sur la vie et la mort que les scientifiques et les médecins. J'aime bien ce côté ironique.
Oui.
Les vainqueurs, Donald Trump, États-Unis, Jair Bolsonaro, Brésil, Boris Johnson, Royaume-Uni, Narendra Modi, en Inde, Obrador au Mexique, Loukachenko en Biélorussie, Erdogan en Turquie, Poutine en Russie et le dernier en Turkménistan. Il s'appelle Berdimuh Ahmedov. Ils ont donc reçu cet IG Nobel spécial 2020 d'éducation médicale. J'adore ça, je trouve ce côté ironique bien vu. Enfin, il y a eu d'autres IG Nobel non scientifiques qui ont été attribués, notamment l'IG Nobel de la paix à l'Inde et au Pakistan, deux nations nucléaires qui jouent à la provocation mutuelle. La catégorie management a récompensé 5 tueurs professionnels chinois pour s'être sous-traités en cascade l'exécution d'une personne. Et l'assassinat n'a finalement pas eu lieu. Et du coup, ça démontre justement l'inefficacité de la délégation en entreprise. J'adore ça.
C'est très drôle, j'adore aussi. Ouais.
Et enfin, l'IG Nobel d'économie, qui s'est intéressé à cette étude qui montre le lien entre le PIB, les inégalités socio-économiques d'un pays et la fréquence du baiser sur la bouche. Il y aurait un lien, apparemment. Ne me demande pas pourquoi.
D'accord.
Mais voilà.
Ça donne envie d'aller enquêter un peu plus sur ces IG Nobel. Là. Je vais aller faire un tour. Oui.
Voilà, on est bien d'accord. Tous les ans, on parle des IG Nobel, c'est un petit peu notre récréation.
Oui.
Parce que c'est rigolo. Mais après, derrière, ça peut aussi laisser réfléchir. Et on est bien d'accord qu'on est certain que là-dedans, il y a quand même des choses très intéressantes qui vont nous servir d'un point de vue médical, d'un point de vue technologique.
Et ce sont, pour la plupart, de vraies recherches scientifiques.
Mais c'est tout l'intérêt des IG Nobel, quand il avait dit les IG Nobel.
Les IG Nobel.
Allez, il nous reste encore 6-7 minutes pour finir cette émission. Carole, je ne sais plus ce que tu avais prévu de... Étonnée que maintenant, dans ce studio agencé façon crise sanitaire,
c'est vrai, avec
tu n'es plus à côté de moi.
Je suis loin, je te fais signe.
Tu es loin, je ne vois plus tes petits papiers, donc du coup, je ne sais plus de quoi tu vas nous parler.
C'est la surprise. Eh bien, je vais parler de la mémorisation de l'emplacement des aliments. C'est un article de Science et Avenir du mois d'octobre qui nous parle en fait du fait que face à plusieurs types de denrées, nous mémorisons plus précisément l'emplacement des aliments les plus caloriques. Et ça, c'est une nouvelle étude qui nous le dit. C'est une capacité que nous aurions héritée de nos ancêtres, dont la survie dépendait de leur faculté à mobiliser les ressources les plus riches. Puisque prenez à gauche, après la barre de chocolat, puis troisième à droite en face du hamburger. C'est une indication certes peu facile à placer, mais scientifiquement hautement efficace, puisque d'après de nouveaux travaux hollandais, eh bien nous avons conservé donc cette mémoire spatiale particulièrement sensible aux calories des aliments qui jalonnent l'espace. Alors moi j'ai toujours été très très nulle en géométrie dans l'espace, mais finalement on a peut-être tous en fait...
Je sais pas, on parlait pas la semaine dernière de l'orientation et des femmes, non, je ne sais pas, non, c'est non.
Oui, mais on disait que justement c'était complètement faux, enfin que c'était un préjugé, hein, il n'y avait rien d'avéré derrière ce fait. Alors cet avantage, en fait, il nous permettait à l'époque de mieux retrouver les ressources les plus nutritives dans notre environnement. C'est ce qui a été publié, enfin en tout cas c'est des résultats d'une étude dans Scientific Reports. Donc comment est-ce que ça a été donc étudié ceci ? Eh bien dans un labyrinthe sont placées sous cloche 8 denrées alimentaires différentes, du chocolat au concombre. Bon, on voit tout de suite vers ce vers quoi on a envie d'aller. Hein. La mission, du coup, consiste à se déplacer d'une cloche à l'autre et de goûter ce qui est caché. À la sortie, contrôle surprise, eh bien, il a été demandé aux participants de se rappeler de l'emplacement des aliments. Donc, ça a été mené sur 512 sujets à la Wageningen University and Research. Lors d'une autre phase ensuite de l'expérience, les participants devaient réaliser le même exercice, mais cette fois, ils ne trouvaient sous cloche que des tampons de coton imbibés de l'odeur de l'aliment et qu'ils devaient simplement renifler. Bon. Plus difficile, mais on commence un petit peu à comprendre ce qui était étudié. Les résultats, ils confirment ce que les chercheurs pensaient, à savoir que notre mémoire spatiale est bien plus performante quand il s'agit d'aliments caloriques. Que ce soit à partir d'odeurs ou d'aliments entiers. Donc, c'est-à-dire que ça marche aussi avec les cotons imbibés. Hein. Les souvenirs étaient en effet 27% plus précis lorsqu'il s'agissait de relocaliser les aliments caloriques par rapport aux aliments peu caloriques. De plus, les souvenirs les plus précis étaient, de loin, ceux des sujets ayant été exposés aux aliments complets. Ah oui, donc quand même. 243% plus précis que le groupe n'ayant eu que les odeurs. Donc, ça marche avec les deux, mais on est quand même plus précis quand on a les vrais aliments. Alors, ce que relatent les chercheurs dans la publication, c'est que pendant environ 99% de l'évolution humaine, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, vivant dans un environnement alimentaire physique très complexe et variable, où les sources de nourriture variaient en fonction des disponibilités spatiales et temporelles. Il paraît donc logique que la pression de sélection favorise la recherche efficace de nourriture, offrant les meilleures ressources nutritionnelles. C'est pourtant la première fois que cette hypothèse est vérifiée. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est quelque chose qui soit déjà démontré, mais ce n'était pas le cas. Ces résultats suggèrent que l'esprit humain continue à abriter un système cognitif optimisé pour la recherche d'énergie dans des habitats alimentaires erratiques du passé et mettant en évidence les capacités souvent sous-estimées du sens olfactif humain. C'est vrai que je sais que ça, j'avais dû déjà en parler dans l'émission, on sous-estime quand même souvent ce sens-là chez l'homme parce que c'est pas un sens noble, entre guillemets, alors pourtant chez pas mal d'animaux, on sait qu'il est prépondérant, mais on s'en sert toujours énormément et en tout cas, ou des fois on ne s'en sert pas alors qu'il est quand même encore très performant. On devrait beaucoup plus faire confiance à notre odorat. Puisque si, donc c'est justement, ça va corroborer ce que je viens de dire, si l'odorat de l'humain, il est souvent décrit comme étant inférieur à celui d'autres mammifères, ces observations, elles montrent notre capacité conservée de déduire la teneur calorique des aliments à partir de leur odeur, pour ensuite les localiser dans l'espace. Il est possible que les cellules de l'hippocampe, donc c'est la zone cérébrale de la mémoire, je le rappelle, présentent une activité accrue lors de la reconnaissance d'objets ou de signaux qui constituent une ressource prioritaire, indépendamment du sens mis en jeu. Voilà, c'est ce que suggèrent les chercheurs. Et c'est assez intéressant, ça peut peut-être nous faire déculpabiliser quand on va plus facilement chercher la tablette de chocolat que la salade de légumes. Voilà.
Eh bien, bon appétit, chers amis auditeurs, si vous êtes à table, bien évidemment. Vous avez écouté Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, rediffusion les mardis à 10h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, et vous êtes de plus en plus nombreux. On ne peut que vous inciter aussi à liker la page de Graphite sur Facebook, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir un petit peu diffuser de plus en plus ce genre d'informations. Merci Carole, on se retrouve samedi prochain à 12h.
À samedi.
Merci à vous, dans un instant la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. Bonne journée à tous.